18h33, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer après la pandémie, quand la poussière va retomber. On va se mettre à réfléchir à nos façons de faire comme individus, comme société, comme État. Probablement comme planète aussi, par exemple. On va peut-être décider que d'avoir des chaînes de distribution de manufacturières qui sont à l'étranger pour ce qui est de produits stratégiques, bien, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être pas une bonne idée de devoir quémander des masques à la Chine, etc., etc. Et sur la souveraineté alimentaire, moi, je prétends qu'on va beaucoup en parler. On ne voudra plus dépendre de fruits et légumes qui viennent de partout. À ce point-là, ça ne va pas disparaître la mondialisation, mais peut-être que les gens aussi vont se dire « Hey, c'est peut-être que je pourrais m'arranger pour avoir un petit potager, faire pousser des affaires. » Et qui de mieux pour parler de ce qu'on peut faire pousser chez soi facilement que notre ami spécialiste de toutes choses vivantes, Pierre Gingras, à qui on n'a pas parlé depuis un bon bout de temps. Salut Pierre!
Bonjour, ça va?
Ça va bien, toi?
Oui. Puis quand on parlait justement d'autosuffisance, faut jamais oublier que l'agriculture urbaine, au Québec du moins, c'est en pleine effervescence.
Oui.
C'est inimaginable. J'ai fait. Il y a une étude qui va paraître bientôt. On parle juste sur les lots résidentiels à Saint-Léonard. Il y a plus de 3 000 potagers.
Wow!
Donc, ça fait beaucoup de potagers. La même étude va nous dire aussi qu'à Brossard, on a fait le même recensement et que chaque jardin, chaque mètre de jardin produisait 4 kilos de légumes. C'est-à-dire que pour l'ensemble des lots résidentiels à Brossard, c'était l'équivalent, tiens-toi bien, de 238 tonnes de nourriture, de légumes frais pour la consommation de légumes pour 3200 adultes. C'est incroyable!
Brossard est comme autosuffisant au chapitre des légumes.
Ben, du moins ceux qui cultivent. Mais il y a plein de petites choses. C'est le temps d'en profiter parce que c'est le moment de faire ces expériences-là.
Oui.
Une expérience intéressante à faire, c'est des cœurs de laitue. Tu sais, tout le monde mangeait de laitue. Tu prends un cœur de laitue, tu gardes la base, tu mets ça dans un verre d'eau ou encore dans un pot maçon. La base, tu mets la base dans l'eau. Et au bout de quelques jours, ça va donner une bébé laitue qui va sortir du sang.
Sérieux? Moi, j'étais sûr. Pierre, j'étais sûr qu'il fallait mettre ça dans la terre.
Non, absolument pas. Là, il faut bien s'entendre, par exemple. Ça va durer, ça va donner du feuillage qui va être consommable pendant, je sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines. Okay. Et si on peut faire la même chose avec les oignons verts. Les oignons verts, d'ailleurs, ça dure plus longtemps, ça dure même quelques semaines. Les oignons verts, tu coupes, tu laisses la base avec les racines, tu mets ça dans l'eau et les tiges vertes vont continuer à pousser durant un certain temps. Tu peux les couper puis ils vont repousser durant, évidemment, deux, trois semaines. Mais quand même, c'est le plaisir de voir cette végétation qui s'anime devant nous autres. Même chose pour le chou chinois, le céleri, on peut faire toutes ces choses-là. Il y a d'autres expériences qu'on peut faire, mais ça, c'est pour les plus jeunes, mais déjà, c'est pour les initiés. Prends un exemple, tu prends des têtes de carottes, têtes de betteraves, têtes de radis avec le bout, tu mets ça dans l'eau, dans une assiette à plat, évidemment, et au bout d'un certain temps, on parle de quelques jours, le feuillage va commencer à pousser. Dans ce cas-là, c'est plus l'aspect spectaculaire pour montrer aux jeunes qu'effectivement, tout ça s'anime beaucoup, ça sera pas mangeable, mais au moins ils vont voir que ces légumes-là qui se manifestent sous leurs yeux, ben c'est pas dans, ça pousse pas dans un étal de Provigo tu mets trop.
Et même la patate douce, on peut la transformer.
Ah, même la patate douce, ça va se couvrir de végétation, plus que ça, ça peut être très décoratif. Moi, j'ai déjà fait des expériences avec des graines de papaye.
Okay.
C'est la graine de papaye, mais je sais pas si tu as déjà vu ça, papayer.
Oui.
Mais un papayer, c'est très joli, ça a une forme très particulière aussi. Mais quand tu mets les graines au bout de quelques semaines, ça donne un bébé papayer. C'est tout à fait spectaculaire. C'est pareil, mais c'est en bébé. Ça, c'est pour les papayes. On peut faire enraciner du basilic aussi. Quand on parlait tout à l'heure qu'il y a un engouement pour l'agriculture urbaine, il faut que je te dise qu'au moment même où on se parle, en raison du fameux virus, les semenciers nord-américains, j'ai lu ça hier dans un magazine, pas un magazine, un journal américain, les semenciers ne fournissent plus. Il y a un engouement peut-être provoqué, mais un engouement très évident à l'endroit des catalogues de semences et partout aux États-Unis, les délais de livraison ont été retardés parce que, littéralement, ils ne fournissent plus. Même à Montréal, le W.H. Perron, qui est le grand catalogue québécois, mais W.H. Perron lui-même essaie de respecter ces délais, mais déjà, il y a un peu de misère parce que la demande est encore très, très forte. Mais là, on parle du Québec.
Et Pierre, début mi-avril, là, c'est la période des semis pour tomates, concombres, poivrons. Mais avant d'aller plus loin, explique-nous c'est quoi un semis.
Bon, un semis, c'est une graine que tu mets en terre puis que tu fais pousser. Contrairement à ce que je viens de te parler, ça, c'est tu prends une graine en bonne et due forme d'un fruit ou peu importe qui a poussé, qui a donné des graines. Donc, on prend ces semences-là, on les met en terre à la maison parce que ça, il faut faire... Donc, toutes les plantes dont tu viens de nommer, c'est des plantes qui aiment la chaleur, c'est des plantes qui exigent une croissance qui est relativement longue. Donc, notre été à nous est un peu court par rapport, mettons, à ce qui se passe ailleurs parce que ces plantes-là, c'est souvent des plantes sud-américaines. On parle notamment des pommes de terre, les tomates et tout ça, ça vient de l'Amérique du Sud ou du sud du Mexique. Donc, ça exige une grande chaleur. Et donc, il faut les partir à l'intérieur, c'est-à-dire faire un semis. Quand tu as mis tes graines, elles vont pousser. Je fais ça ici dans des contenants de fraises. Okay. Ou des contenants de tomates, des petites barquettes de tomates ou de fraises. Mm-hmm. Tu peux en mettre, moi, je mets 4 graines ou 6 graines, dépendant de la grandeur. Et ça pousse, puis ça fait comme une serre, ça, il y a comme un sommet, ça fait comme une serre. Et dès que ça commence à pousser, quand le plant a atteint deux vraies feuilles, ben tu enlèves le plant, puis tu le transplantes, devrais-je dire, dans un plat, pas un plat, mais quand même un pot qui est un peu plus gros, pour lui permettre, là, d'atteindre sa croissance maximale sur le bord d'une fenêtre, en pleine lumière, en plein soleil, en l'arrosant régulièrement. Et à partir de là, vers la mi-mai, la fin mai de préférence, quand le sol est chaud, mais quand le sol sera chaud, ce sera le temps de le transplanter. Mais tu auras fait ça toi-même. Bien sûr, tu peux acheter des plantes de tomates chez n'importe quel centre de jardin. Mais ça, c'est la gratification, c'est toi-même. Et d'autant plus que si tu veux acheter des nouveautés de semences, tu veux acheter des nouveautés, ça, c'est rarement disponible parce que c'est en quantité limitée. Je vais te donner un exemple. Je parlais de W.H. Perron tout à l'heure. Ils mettent en marché, au moment où on se parle, une pomme de terre qui pousse par semence. Habituellement, faire pousser une pomme de terre, tu ne coupes pas un morceau, un trognon de pomme de terre avec des germes dessus, tu mets en terre, ça va donner. Mais là, c'est une nouvelle variété qui donne des pommes de terre plus ou moins grosses, mais qui donne des pommes de terre roses ou rouges à chair blanche, mais c'est avec un semis. Donc, ça pousse à la même vitesse que les tomates. C'est dans le moment qu'il faut les faire pousser tranquillement. Tu mets ça au jardin, comme je t'ai mentionné, fin mai, et ça va donner, en fin de saison, un plant avec des tomates sous terre. Ah, pas des tomates, que c'est des pommes de terre sous terre. Donc, c'est tout à fait gratifiant. C'est extrêmement... Moi, en tout cas, les enfants, avec qui les enfants... J'ai fait ça, les miens sont plus grands maintenant, mais ou mes petits-enfants ont toujours aimé ça. Et quand ils viennent, durant l'été, quand ils venaient ici pour voir le jardin, la première chose qu'ils faisaient, ils sortaient de l'auto puis allaient directement au jardin pour voir comment ça en était. Donc là, je t'ai parlé des semis qui peuvent pousser effectivement à l'intérieur, faut pas pousser à l'intérieur. Mais si tu veux faire un vrai semis pour le jardin, il faut attendre quand le sol est chaud, on parle de 20 degrés, et là, tu peux semer carottes et toutes ces choses-là directement en pleine terre, et tu vas attendre le résultat.
Pierre, on va arrêter ici, mais sais-tu quoi? Il y a un grand intérêt pour l'autonomie individuelle au chapitre de la bouffe, là, avec cette pandémie. On va s'en reparler.
Je sais que le temps que tu marques, mais il y a une chose qu'on peut faire pousser chez nous, ce sont des arachides. Des vrais arachides. Moi, j'ai fait l'expérience à maintes reprises.
Garde ton idée, faut que je te laisse, mais on va s'en reparler. Merci beaucoup, Pierre.
OK, bye.
Pierre Gingras, et je suis déçu, on n'a pas entendu son perroquet gris-gris dans l'arrière-plan, mais ce sera pour la prochaine fois. 18h42, notre amie Catherine Beauchamp s'en vient.